La douleur qui envahit Teg était d'une telle intensité qu'il fut obligé de reconnaître que la précédente était loin du maximum. Mais avec cette nouvelle vague avait surgi une étrange sensation de clarté. Il se trouvait presque en mesure de retrancher ses pensées de l'agression, comme si la douleur concernait quelqu'un d'autre. Il avait découvert un sanctuaire où peu de choses l'atteignaient. La douleur était toujours là, atroce même. Elle lui parvenait comme un rapport sur l'état de ses sensations. C'était en partie le chéré qui faisait cela. Il le savait et il en éprouvait de la gratitude. La voix de Mater s'immissa dans son univers intérieur.
« Je crois que nous allons le perdre. Vous feriez mieux de réduire. »
Une autre voix lui répondit, mais le son se figea avant que Teg ait pu identifier les paroles. Il s'aperçut brusquement que ses perceptions n'avaient plus de point d'ancrage. Tout s'était arrêté. Il crut entendre les battements de son cœur s'accélérer sous l'effet de la peur, mais il n'en était pas sûr. Tout était immobile, profondément silencieux, et il n'y avait rien autour. Suis-je encore vivant ? Il perçut alors un battement de cœur, mais sans avoir la certitude qu'il s'agissait du sien.
Bam-boudam, bam-boudam.
C'était une impression de mouvement et non de bruit. Il ne pouvait pas lui attribuer de source. Que m'arrive-t-il ? Les mots s'inscrivirent soudain en lettres blanches brillantes sur le fond noir qui recouvrait ses centres visuels.
Je suis revenu à un tiers.
Restez comme ça. Nous allons voir si nous pouvons le lire par l'intermédiaire de ses réactions physiques.
Peut-il encore nous entendre ?
Pas consciemment. Aucune leçon de Teg ne lui avait suggéré qu'une sonde pouvait accomplir son sale boulot en présence du chéré. Mais ils appelaient ça une sonde T. Les réactions imperceptibles de son corps pouvaient-elles livrer la clé de ses pensées non formulées ? Y avait-il un moyen physique de les extirper contre sa volonté ? De nouveau, les mots s'inscrivirent dans ses centres visuels. Est-il toujours bien isolé ?
Entièrement.
Ne prenons pas de risques.
Enfonce-le un peu plus.
Teg s'efforça de hisser ses perceptions au-dessus de cette erreur.
Il faut que je reste maître de moi.
Que révélerait son corps s'il perdait le contact ? Il avait une petite idée de ce qu'ils étaient en train de lui faire, et son esprit en ressentait une extrême panique, mais sa chair ne sentait rien. Isoler le sujet. Ne lui fournir aucun endroit où asseoir son identité. Qui avait dit cela ? Quelqu'un ? La sensation de déjà-vu lui revenait en force. « Je suis un mentat », se dit-il. « Mon esprit et ses mécanismes constituent le centre de moi. » Il possédait des souvenirs et une expérience sur lesquels pouvait s'appuyer ce centre. La douleur revint, puis les bruits. Trop fort. Beaucoup trop fort.
« Il entend de nouveau »,
dit la voix de Yar. « Comment est-ce possible ? » dit le fonctionnaire.
« Votre réglage n'est peut-être pas assez fort ?»
C'était Mater qui venait de parler. Teg fit un effort pour ouvrir les yeux. Ses paupières n'obéissaient pas.
Puis il se souvint, ils appelaient cela une sonde T. Ce n'était pas un appareil ixien, c'était quelque chose qui venait de la dispersion.
Il identifiait la manière dont ses muscles et ses sens lui étaient assujettis, comme si une autre personne habitait son corps avec un droit de regard sur ses réactions. Il s'appliqua à suivre les cheminements du processus d'intrusion mécanique. Cette machine du diable pouvait lui ordonner de cligner les yeux, de soupirer, de pisser, de péter, de déféquer, n'importe quoi. Elle pouvait commander à son corps comme si ses pensées n'avaient aucune part dans son propre comportement. Il était relégué dans un simple rôle d'observateur. Des odeurs l'assaillirent, des odeurs écœurantes. Il ne pouvait pas se commander de plisser les narines, mais il en eut l'idée. C'était suffisant. Ces odeurs avaient été produites par la sonde. Elles jouaient avec ses sens pour apprendre leur réaction.
« Vous n'en avez pas assez pour le lire ?»
La voix de ténor du fonctionnaire. « Il nous entend encore. Yar !»«
Maudit soit ces mentat !»
Cette fois-ci, c'était Mater.
« Dit, dat et dot, »
fit Teg, nommant les marionnettes du cirque d'hiver de sa lointaine enfance sur l'Ernaeus.
Il parle,
le fonctionnaire. Teg sentit la machine bloquer ses perceptions. Yar était en train de faire quelque chose sur sa console. Mais Teg savait que sa logique de mentat venait de lui souffler quelque chose de vital. Ces trois-là étaient des marionnettes, seuls les montreurs avaient de l'importance. Et à la manière dont les marionnettes bougeaient, on pouvait dire ce que faisaient les montreurs. La sonde poursuivait son intrusion. Malgré la violence en jeu, Teg sentait ses perceptions s'ajuster à la machine. Elle l'étudiait, mais il l'étudiait lui aussi. Il commençait à comprendre. Toute l'étendue de son spectre sensoriel pouvait être recopiée dans cette machine et mise en réserve à la disposition de Yar. Il existait dans Teg une chaîne de réactions organiques. La machine pouvait les remonter à la trace, comme si elle fabriquait un véritable duplicata de lui. Le chéré et sa résistance de Mentat écartaient les recherches de sa mémoire, mais tout le reste pouvait être reproduit. « Elle ne pensera pas de la même manière que moi », se dit-il pour se rassurer. La machine n'aurait ni ses nerfs ni sa chair. Elle n'aurait pas ses souvenirs, ni ses expériences. Elle n'était pas née d'une femme. Elle n'avait jamais émergé de la chaleur d'un ventre humain pour affronter cet étonnant univers. Dans une partie de son esprit conscient, Teg planta un petit drapeau pour signaler que cette observation lui apprenait quelque chose sur le Gola. Duncan a été décanté dans une cuve à Xlotl. Cette déduction lui était parvenue comme une brusque morsure d'acide sur le bout de la langue. Encore la sonde T. Teg se laissa évoluer parmi une multiplicité de perceptions simultanées. Remontant les prolongements de la sonde T, il continua d'approfondir son observation sur le Gola, tout en essayant d'écouter Dit, Dat et Dot. Les trois marionnettes demeuraient étrangement silencieuses. Oui, elles attendaient que leur sonde T achève son travail. Le Gola. Duncan était une extension réalisée à partir de cellules qui étaient bien nées d'une femme imprégnée par un homme. Machine et Gola. Observation. La machine est incapable de partager cette expérience de la naissance excepté d'une manière lointaine et indirecte, qui ne peut que laisser de côté les nuances personnelles importantes. De même qu'elle laissait en lui beaucoup d'autres choses de côté en ce moment même. La sonde T était en train de lui rejouer des odeurs. Avec chaque odeur induite, les souvenirs révélaient leur présence dans la mémoire de Teg. Il percevait la très grande vitesse à laquelle elle opérait, mais ses propres sensations demeuraient étrangères à cette exploration menée à toute allure et lui permettaient de se retrancher aussi longtemps qu'il le désirait à l'intérieur des souvenirs ainsi évoqués. Voilà. Ça, c'était la cire brûlante qu'il s'était répandue sur la main quand il avait à peine 14 ans et qu'il étudiait à l'Institut du Bene Gesserit. Il se rappelait les salles de cours et les laboratoires comme si la seule existence qu'il eût connue se déroulait là-bas en ce moment même. L'institut rattaché à la maison du chapitre. Par le fait même qu'il avait été admis là, Teg savait que le sang de Siona coulait dans ses veines. Aucun pouvoir de préscience ne pouvait le suivre à la trace. Il vit les labos et sentit l'odeur de la cire, un composé d'ester artificiel et du produit naturel élaboré par des abeilles qu'élevaient des sœurs déchues et leurs serviteurs. Il concentra ses souvenirs sur un moment où il était en train d'observer les abeilles et les apiculteurs au travail, parmi les vergers de pommiers. Les rouages de la structure sociale du Bene Gesserit paraissaient compliqués jusqu'au moment où l'on prenait conscience des nécessités vitales. Se nourrir, s'habiller, se chauffer, communiquer, s'instruire, se protéger de ses ennemis, comme annexe à la pulsion de survie. La continuité du Bene Gesserit exigeait pour être comprise une certaine adaptation. L'ordre ne procréait pas pour le bien de l'humanité en général. Pas de mixture raciale incontrôlée. L'ordre procréait pour étendre ses propres pouvoirs, pour assurer la continuation du Bene Gesserit, en estimant que c'était un service suffisant qu'il rendait à l'humanité. Peut-être était-ce vrai. La motivation de reproduction était profondément implantée et la communauté des sœurs avait l'habitude de faire les choses jusqu'au bout. Une nouvelle odeur l'assaillit. Il reconnut l'odeur de laine mouillée de ses vêtements au moment où il entrait dans la capsule de commandement à l'issue de la bataille de Poncyar. L'odeur emplissait ses narines, appelant celle de l'ozone des instruments de la capsule et celle de la transpiration des autres occupants. La laine. Les sœurs avaient toujours trouvé un peu étrange ce penchant qu'il avait pour les matières naturelles au détriment des fibres synthétiques produites dans des fabriques captives. Et il n'aimait pas plus les canisièges.
Je déteste l'odeur de l'oppression sous toutes ses formes.
Ces marionnettes, dites, dates, d'hôtes,
savaient-elles à quel point elles étaient opprimées?
La logique mentate lui fit un clin d'œil sarcastique. Les vêtements de laine n'étaient-ils pas aussi produits dans des fabriques captives?
Mais ce n'était pas la même chose.
Une autre partie de lui-même défendait des arguments opposés. Les matières synthétiques pouvaient être stockées pour une période de temps pratiquement illimitée. Combien de temps, par exemple, était-elle restée dans les compartiments anentropiques du non-globe Harkonnen?
Je préfère tout de même la laine et le coton.
Comme tu voudras.
Mais comment ai-je acquis de tel goût?
C'est un préjugé atréide.
Tu en as hérité.
Teg chassa les odeurs diverses et se concentra sur le mouvement global de la sonde agressive. Il s'aperçut bientôt qu'il était capable de devancer l'objet. C'était comme un nouveau muscle qu'il s'exerça à fléchir, tout en continuant d'explorer ses souvenirs induits à la recherche d'informations utiles.
« Je suis assis sur le seuil de la maison de ma mère, sur l'Ernaeus. »
Teg fit abstraction d'une partie de ses perceptions pour observer la scène. Âge, 11 ans. Il est en train de parler à une jeune acolyte du Bene Gesserit qui fait partie de la suite d'un important visiteur. L'acolyte est une minuscule créature aux cheveux blonds roux et à la figure de poupée. Nez retroussé, yeux gris vert. Li V est une révérende mère en robe noire, extrêmement vieille d'apparence. Elle a disparu à l'intérieur en compagnie de la mère de Teg. L'acolyte, qui s'appelle Karlana, essaye ses jeunes talents sur le fils de la maison. Avant qu'elle ait prononcé 20 mots, Miles Teg a su identifier ses intentions.
Elle cherche à lui soutirer des informations.
C'est l'une des premières leçons de diplomatie délicate que lui a enseigné sa mère. Il y a, après tout, beaucoup de gens qui aimeraient bien poser des questions indiscrètes à un petit garçon qui vit dans la maison d'une révérende mère, en espérant obtenir quelque information monnayable. Il y a toujours un marché pour ce genre de choses. Sa mère lui a expliqué
« Tu commences par juger celui qui te pose les questions, de manière à accorder tes réponses à ses faiblesses. »
Rien de tout cela, naturellement, n'aurait pu servir contre une révérende mère à part entière, mais contre une acolyte, particulièrement celle-ci. Face à Karlana, il affecte une attitude de réticence timide. Karlana se fait une idée un peu exagérée de son charme. Il la laisse vaincre sa réticence après avoir fait dûment appel à tout son répertoire de séduction, ce qui lui vaut une bonne poignée de mensonges qui, si elle les répète jamais à Livé qui se trouve de l'autre côté de la porte close, lui attirera à coup sûr une sévère réprimande, sinon quelque chose de plus douloureux encore.
Dites. Dat et Dot sont en train de dire quelque chose.
Je crois qu'il est prêt maintenant.
Teg a reconnu la voix de Yar, qu'il a tirée de ses souvenirs anciens.
Accordez tes réponses à ses faiblesses.
La voix de sa mère résonne encore dans la tête de Teg.
Des marionnettes, des montreurs de marionnettes.
Le fonctionnaire parle. Demandez à la simulation où ils ont conduit le Gola. Un grand silence, suivi d'un léger bourdonnement. Je ne reçois rien, Yar. Teg les entend parler avec une acuité douloureuse. Il force ses yeux à s'ouvrir, malgré le commandement contraire de la sonde.
Regardez, fait Yar.
Trois paires d'yeux fixent Teg sans bouger. Ou plutôt si, ils bougent.
Mais avec quelle lenteur?
Dites, dates, dot. Leurs paupières battent, battent. Avec une minute au moins d'intervalle entre deux battements. Yar va faire quelque chose sur sa console. Ses doigts mettront une semaine pour arriver à destination. Teg tâte les liens qui lui maintiennent les chevilles et les poignets. De la corde ordinaire. Prenant son temps, il tortille les doigts pour qu'ils entrent en contact avec les nœuds. Il se relâche, lentement tout d'abord, puis se défond d'un coup. Il passe aux sangles qu'il attache à la litière. Plus facile, de simples boucles. La main de Yar n'a pas fait le quart du chemin jusqu'à la console.
Dites, date, dot.
Les trois paires d'yeux commencent à manifester une légère surprise. Teg se libère des fils de la méduse.
Pap, pap, pap.
Les ventouses sautent l'une après l'autre. Il est surpris de voir que le dos de sa main droite saigne un peu à l'endroit où il a effleuré l'une des connexions. Projection mentat. Mes mouvements se font à une vitesse dangereuse.
Il a déjà sauté à bas de sa litière. Le fonctionnaire fait un geste lent, très lent, vers sa poche où l'on voit une bosse.
La main de Tegle lui broie la gorge. Celui-là ne se servira plus jamais du petit laser qu'il porte toujours sur lui.
La main de Yar a encore le tiers du chemin à faire. On lit maintenant une nette surprise dans ses yeux. Il est peu probable qu'il aperçoive même la main qui lui brise la nuque.
Mater est un peu plus rapide. Son pied gauche est lancé vers l'endroit où Teg se trouvait un instant avant.
Trop lent.
Elle a rejeté la tête en arrière, exposant son cou au tranchant de main qui l'achève.
Comme ils sont lents à tomber.
Teg s'aperçut alors qu'il transpirait abondamment. Mais il n'avait pas le temps de s'inquiéter de ça.
Je savais exactement ce qu'ils allaient faire avant même qu'ils accomplissent leur geste.
Que m'est-il arrivé?
Projection mentat.
L'agonie de la sonde maïssée à un nouveau niveau de capacité.
Une sensation aiguë de faim lui fit prendre conscience de l'énergie qu'il avait dépensée. Il écarta cette sensation et se sentit retourner à une cadence normale.
Trois coups sourds successifs.
Trois corps qui heurtaient le sol.
Il prit le temps d'examiner la console. Il était sûr qu'elle n'était pas de fabrication Ixienne.
Les commandes semblaient à peu près les mêmes cependant.
Il court-circuita le système de mise en mémoire pour en effacer le contenu.
Les lumières de la pièce.
La plaque à côté de la porte d'entrée. Il éteignit tout, prit trois inspirations profondes.
Un tourbillon flou fit irruption dans la nuit qui enveloppait la cabane.
Ceux qui l'avaient amené ici, emmitouflés dans leurs épais vêtements pour se protéger du froid hivernal, eurent à peine le temps de se tourner en direction du bruit étrange avant que le tourbillon ne les abatte.
Cette fois-ci, Teg mit un peu moins de temps à retrouver sa cadence normale.
La lumière des étoiles lui permit d'apercevoir une piste qui conduisait vers le bas de la colline à travers d'épaisses broussailles.
Glissant sur la neige boueuse et piétinée, il trouva bientôt le moyen de s'équilibrer en anticipant le terrain.
Chaque pas retombait exactement où il voulait qu'il soit.
Il se trouva bientôt au milieu d'un espace découvert d'où la vue plongeait sur une vallée.
On voyait les lumières d'une cité avec un grand rectangle noir formé de bâtiments dans la zone centrale.
Il connaissait cet endroit.
Issaï.
C'était là que se trouvaient les montreurs de marionnettes.
Et je suis libre.